Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Et nous allons parler de l'importance du don bénévole de sang. Pourquoi est-il important de faire un don de sang? Vous savez, ils sont moins nombreux, ces Congolais, qui acceptent de donner gratuitement le sang pour sauver des vies. Le Centre national des transfusions sanguines enregistre un faible taux de collecte de sang issu des donneurs bénévoles. Seulement 33% des sang proviennent de cette catégorie des donneurs. Par ailleurs, il s'est développé dans certains hôpitaux un réseau des gens qui vendent, des personnes qui vendent le sang aux patients qui sont dans le besoin. Alors, pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang et quelle stratégie mettre en place pour avoir plus des donneurs bénévoles de sang? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité. Le temps d'essouffler un tout petit peu en musique et nous allons revenir tout à l'heure. Alors, appelez déjà, le standard est ouvert, composé de 081-890-63-94.
François Tebos, le cachemar.
Tu bisungu papingana, kolivila mikina mundo, leo kaniki
Merci d'écouter Radio Okapi, une voix pour tous. Merci de nous écouter partout où vous êtes à travers la République. Je disais tout à l'heure que nous allons aborder à présent un autre thème. Nous allons parler de l'importance du don bénévole des sangs. Ils sont moins nombreux, ces Congolais qui acceptent de donner gratuitement le sang pour sauver des vies. Le Centre National des Transfusions Sanguines enregistre un faible taux des collectes des sangs ici de donneurs bénévoles. Seulement, on parlait tout à l'heure des 33%, il y a eu quand même amélioration, on est autour de 40% déjà, mais l'objectif c'est d'atteindre 80% d'ici 2030. Eh bien, alors, il s'est développé par ailleurs un réseau de personnes qui préfèrent vendre les sangs lorsqu'il y a un besoin dans un hôpital, ils sont à côté, et puis bon, ils peuvent donner le sang contre de l'argent. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit de Dr Pacifique Missingi, directeur du Centre National des Transfusions Sanguines. Dr Pacifique, bonjour.
Bonjour, cher.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, nous parlons de l'importance du don bénévole de sang. Pourquoi est-il important de donner le sang bénévolement, de manière gratuite?
Merci beaucoup, cher journaliste. Je remercie en passant tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Abordant directement le thème, je dirais qu'il faut donner du sang parce que, un, il n'existe pas aujourd'hui un substitut de sang efficace à 100%. De deux, il n'existe pas d'usine qui produit du sang ou qui fabrique du sang. Et de trois, il n'y a que le sang humain qui est utilisable pour l'homme. Et donc, lorsque le besoin se fait sentir, nous ne pouvons que faire un don bénévole de sang et pouvoir espérer très rapidement sauver des vies humaines.
Voilà, donc il n'y a pas d'usine pour fabriquer les sangs, il n'y a que l'homme qui peut donner les sangs. Et pourquoi vous avez le centre a plus besoin de sang? Parce qu'il y a des besoins, il y a des gens qui perdent au quotidien le sang.
Tout à fait. Ici, il faut souligner que le besoin en sang est universel. Mais l'accès à ce sang de qualité est très très limité. Et donc, déjà, les besoins lui-même, si je me rabats par rapport aux données du pays, nous nous attendions pour 2022 à peu près à 750 000 dons de sang pour couvrir les besoins du pays. Mais les rapports que nous avons collectés montrent que nous ne sommes qu'autour de la couverture de 57% des besoins. Et donc, il faut absolument que des personnes de bonne volonté, des volontaires non payés puissent faire leur don de sang, parce que les dons de sang et les donneurs bénévoles de sang sont au centre de nos activités. Voilà, moi je pense que il faut le faire. Et c'est un acte de patriotisme, c'est un acte de solidarité envers ceux-là qui en ont besoin.
Et quelles sont les catégories des personnes qui ont besoin de sang?
Effectivement, les personnes qui ont le plus besoin de sang, ce sont les femmes. En premier, les femmes en âge de procréation. Et spécifiquement ici, les femmes pendant leur grossesse, pendant l'accouchement et même après l'accouchement. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont aujourd'hui victimes ou des cibles développant le paludisme grave, forme anémique. Et je vous signale ici que sur les 100% des paludismes identifiés ou notifiés dans le pays, 60% d'entre eux, des enfants de moins de 5 ans, bénéficient de la transfusion. Donc ce sont les deux principales cibles, mais au-delà de ça, nous avons aussi nos compatriotes qui souffrent de la drépanocytose. Nous avons aussi les accidentés.
Qui ont besoin de sang à tout moment.
À tout moment, quasiment ad vitam. Voyez-vous, donc, ce sont les catégories les plus ciblées. Mais de plus en plus, avec tous les accidents liés au trafic routier, tous les états de traumatisme nécessitent également des produits sanguins. Sans citer les cas de chirurgie au niveau des hôpitaux, sans citer les malnutris qui développent aussi des anémies sévères et qui nécessitent des transfusions sanguines. Voilà un peu les catégories les plus exposées et qui ont besoin vraiment du sang.
Alors donc l'objectif fixé par l'OMS, c'est que d'ici 2030, on doit atteindre une couverture de 80%.
Absolument, c'est la cible globale.
Et 80% des donneurs bénévoles.
Oui, 80% des dons devraient provenir des donneurs bénévoles de sang.
Et aujourd'hui, on est autour de combien les pourcentages? Avant, on parlait des 33% donneurs bénévoles. Il y a eu quand même une évolution.
Oui, oui, tout à fait. Il y a eu une légère évolution. La moyenne pays montre que nous sommes autour de 39,7%. Ça, c'est le rapport de 2021 qui nous le confirme. Et il faut dire que nous venons de 34% l'année 2020. Aujourd'hui, nous sommes à 39,7%, donc autour de 40%. Et nous espérons atteindre la cible si nous quintuplons les efforts avec l'appui de toutes les parties prenantes.
Et quels sont les efforts qui ont été fournis pour atteindre ces... pour connaître cette avancée-là, si on peut le dire ainsi?
D'abord, il faut souligner ici l'apport substantiel du gouvernement de la République. C'est que en 2021, au dernier trimestre, nous avons reçu un appui considérable dans la mobilisation de la communauté au don de sang, et ce qui a naturellement boosté cette proportion. Nous avons donc acquis des moyens de pouvoir sensibiliser, de pouvoir aller collecter et de pouvoir fidéliser le peu de donneurs qui sont encore dans notre pipeline. Ça, c'est vraiment l'appui causable du gouvernement, mais à côté de ça, il y a d'autres partenaires particuliers qui appuient de manière ponctuelle. Mais ici, l'appui conséquent, considérable, a été celui du gouvernement l'année passée.
Bien, nous parlons de l'importance du don bénévole des sangs, des questions et préoccupations. Appelez-nous au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Alors, on a appris tout à l'heure qu'il y a dans les hôpitaux, des réseaux, des personnes qui ne veulent plus donner gratuitement les sangs, qui veulent les sangs contre de l'argent.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Ça, c'est une triste réalité que nous nous décourageons et que nous déplorons. Ce n'est pas de l'éthique. Effectivement, lorsque nous réalisons les données qui nous sont rapportées dans les hôpitaux, autour de 5% des dons proviennent des donneurs payés, malheureusement. Ça, c'est au niveau des hôpitaux. Mais au niveau de nos centres provinciaux de transfusion sanguine, tous les dons sont bénévoles. Et donc, c'est des compatriotes qui, certainement par ignorance, se positionne autour des hôpitaux, connaissant que les besoins en sens va se présenter et que l'accès sera limité, et ils font échanger cet acte-là contre de la monnaie. Et ce qui est très, très déplorable.
Donc, il y a une catégorie des gens qui veulent se faire payer.
Tout à fait. Ça c'est une toute réalité. C'est autour de 4 à 5% des dons que nous avons enregistrés au niveau des hôpitaux qui étaient des donneurs payés. Mais la tendance doit s'inverser parce que nous partons de 33% des donneurs bénévoles, nous sommes à 40% et nous allons vers l'élimination de cette couche-là.
Mais certains disent que pourquoi donner le sang gratuitement? Parce que lorsqu'il y a un besoin à l'hôpital, on va pas donner le sang gratuitement. Ce sang-là sera, vous devez payer pour l'avoir.
Bon, ça c'est une problématique de la politique de la tarification qu'il faut très bien réglementer. Mais le sang lui-même ne se vend pas. Le coût de cession qui est appliqué à ces produits est tributaire de certains intrants qui entrent en ligne de compte pour arriver à collecter du sang et pour arriver à faire une qualification de ces produits collectés. Mais en réalité, si nous calculons les prix réels ou le coût réel d'une poche de sang, nous avoisinons autour de l'équivalent de $65 lorsque nous allons collecter en stratégie en campagne mobile, et nous avoisinons $44 à $45 si nous collectons en stratégie fixe. Mais la cession du produit sanguin aujourd'hui est très insignifiante. C'est autour de 20 000 francs congolais parce qu'il faut quelques intrants, quelques éléments de fonctionnement qui doivent être apportés pour aller sur le terrain, sensibiliser et collecter. Mais jusque-là, le gap à combler est apporté par le gouvernement seul.
Bien. Héritier Ouamenga nous a écrit sur Facebook depuis la ville de Kisangani. Donner le sang, c'est sauver des vies. Mais ce programme a du mal à réussir dans la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani, dans la mesure où le centre de transfusion sanguine collecte bénévolement ses poches de sang, peut-être pour un morceau du pain et une bouteille de sucré, pour le revendre plus tard à $10 américains. Moi d'ailleurs, j'étais donneur, mais lorsque j'étais devant il y avait un besoin, d'une seule poche parce que mon enfant voulait mourir par insuffisance de sang. Le centre des collectes m'avait obligé d'y acheter, oubliant que j'ai eu à sauver des vies malgré les bordereaux de prélèvements que je détenais. Depuis ce jour, je me suis dit, désormais, je ne veux plus donner mon sang. Je pense qu'avec ce témoignage, le programme des transfusions sanguines devrait prendre à bras le corps les aspects imprévus, car les entrepôts connaissent un problème sérieux d'approvisionnement depuis Kisangani, Héritier ou Aminga. Docteur Pacifique, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
J'ai remercié très très sincèrement notre donneur et je le motive, je l'incite à pouvoir continuer à faire le don de sang. Parce que le fait que ce jour-là, les jours qu'il a été reçu, il n'a pas été servi avec promptitude, ne signifie pas nécessairement que le pays ne lui est pas reconnaissant. J'étais à lui remercier et je l'incite, je le motive à continuer à le faire et nous profitons de cette opportunité pour demander aussi à ceux-là qui n'ont pas encore fait leur don de sang de rejoindre les autres et de rejoindre le mouvement et de continuer à sauver des vies. Notre politique de fidélisation des donneurs bénévoles de sang veut que pour tout donneur bénévole de sang, lorsqu'il se présente, notamment au niveau de nos centres provinciaux, qu'il soit servi à l'unité de sang en urgence et gratuitement. Et c'est ce que nous devons développer avec les hôpitaux pour que ces donneurs bénévoles de sang soient placés au centre de la réactivation de tous nos services de transfusion sanguine et de tous nos services de banque de sang. Moi, je pense que c'est des compatriotes que je dois remercier sincèrement et que je dois continuer à motiver, à continuer à faire des dons de sang.
Mais parce son enfant a eu un problème. On ne l'a pas servi comme priorité. C'est ce qui l'a découragé.
Bon, ça, c'est un acte déplorable, mais la politique nationale veut que tout donneur bénévole de sang, en contrepartie, il devait être traité avec priorité, d'abord, lui-même, ses enfants, son épouse et tous ses dépendants. Parce que l'acte qu'il pose...
Être traité en priorité, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire, quand il se présente au niveau de nos services de transfusion sanguine, il doit être dignement d'abord reçu et être servi par rapport à sa demande, en priorité. Ça, c'est une politique nationale levée en tant qu'option. Mais il arrive des structures qui, faute de quantité suffisante, ça il faut noter, et faute d'une bonne traçabilité des donneurs qui se présentent en face, peuvent poser certaines questions pour se rassurer si effectivement il n'y a pas risque que ces donneurs qui se présentent comme bénévoles ne l'est pas en réalité. Donc il y a des petites questions qu'on pose pour se rassurer qu'effectivement celui-ci c'est un donneur bénévole de sang.
Et pourtant, il dit qu'il avait sa fiche. Je pense qu'on leur donne des cartes.
Oui, ils ont des cartes, mais méfiez-vous, je ne dis pas que...
Il y a des réseaux de mafieux qui en fabriquent aussi.
Oui, oui, nous avons certains témoignages. Mais le cas de notre compatriote de Kisangani, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personne de ces réseaux-là, mais ils existent. Il y a des questions que nous posons pour qu'on se rassure, effectivement, qu'on est en face d'un compatriote qui a déjà sauvé beaucoup de vies et qu'il faut également lui aussi intervenir en urgence pour les cas qu'il concerne.
Bien, alors qui peut donner le sang, docteur Pacifique?
Bon, c'est toute personne adulte en bon état de santé, âgée de 18 à 65 ans, peut donner son sang. Et il existe par ailleurs un mécanisme qui fait en sorte que nous passions en revue, que nous fassions un check, que nous fassions un contrôle de tout candidat, quoi qu'il fasse partie de cette frange de la population, de cette frange d'âge, il y a un questionnaire qu'on applique, un entretien qu'on réalise pour qu'on se rassure que ce candidat est apte à donner du sang. Mais a priori, toute personne âgée de 18 à 65 ans peut donner son sang pour autant qu'il soit en bon état de santé.
Bien, et quels sont les candidats exclus?
Évidemment.
Ceux qui ne peuvent pas donner le sang.
Bon, il y a les facteurs âge déjà qui éliminent certains candidats en dessous de 18 ans, d'une part. D'autre part, il y a certaines pathologies qui, lors d'un entretien, on découvre qu'il y a des pathologies qui contre-indiquent les dons de sang et le candidat peut être éliminé. Donc, il y a des
pathologies, par exemple, le VIH-SIDA.
Notamment, donc toutes les pathologies infectieuses documentées entraînent une exclusion,
une exclusion définitive.
Mais il y a d'autres cas d'exclusion temporaire, ça veut dire que le patient peut être sous un traitement médical et que aussitôt terminé un traitement médical pour une pathologie évidemment transitoire, il peut revenir faire ce don de sang. Mais les autres cas, les cas de compatriotes hypertendus documentés sont aussi exclus au don de sang.
Bien, on va accueillir un auditeur, Raymond depuis Nyonzou. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons de l'importance du don bénévole de sang avec Dr Pacifique Missingui, directeur du Centre national des transfusions sanguines. On va accueillir un auditeur, Raymond Nyonzou, depuis Raymond, qui se trouve à Nyonzou, évidemment. Bonjour Raymond, quelle est votre préoccupation?
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aussi à notre invité. Par rapport à ce sujet, moi je voulais demander à l'invité pour savoir si ce qui se passe ici chez nous à Nyonzou, ce qui se passe partout en République démocratique du Congo. Ici chez nous à Nyonzou, il y a aussi cette association de donneurs du sang. Alors, lorsqu'il y a une nécessité qui s'impose à l'hôpital, le médecin invite les donneurs du sang. Lorsqu'il arrive, il tire le sang. Après ça, après la sortie tout simplement de ces donneurs-là, le médecin qui va taxer les prix à ces malades-là en disant que toi, tu ne connaissais pas celui à qui j'ai appelé, cette fois-ci, tu dois me payer, par exemple, 36 000 francs ou soit 50 000 francs. Et les malades payent cet argent. C'est ce qui se passe chez nous, à nous. J'ai dit en confirmant même c'est ce qui se passe. Je voulais demander à l'invité. Quel conseil peut-il donner à ces médecins qui font ça et quel conseil qu'il peut encore donner à ces donneurs-là qui donnent le sang gratuitement, mais c'est ça qui sera vendu par les médecins. Merci, monsieur le journaliste.
Bien, merci Raymond de Nyonzou. On va accueillir Jérémy de Gbadolité. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à nos invités.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au don bénévole du sang?
Oui, je voulais intervenir sur le cas de sang, comme notre ami vient de parler maintenant, Raymond. Par rapport dans notre ville de Badolite, ça se passe beaucoup, et surtout dans notre hôpital de Badolite. Parfois, si on nous appelle, nous donner du sang là-bas gratuitement, et les personnes qui sont malades, s'ils viennent à l'hôpital pour qu'on puisse leur donner aussi du sang gratuitement, on leur demande de l'argent, des pauvres, on leur demande de l'argent d'amener même des personnes hors. Les médecins disent souvent que les vents ne se vendent pas. Et aujourd'hui, nous demandons à notre invité de nous expliquer si c'est vrai. Est-ce que le sang, ça se vend ou ça ne se vend pas, monsieur le journaliste?
Bien, est-ce que le sang, ça se vend ou ça ne se vend pas? Bien, docteur Pacifique, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup nos amis des News et de Guado. Vous avez exactement les mêmes préoccupations. Les dons sont bénévoles, mais la poche de sang est vendue. C'est ça.
Ben, c'est toujours ce problème qui revient à tout moment.
Oui, à tout moment. Il faut ici noter que le sang, c'est aussi une partie de son corps. Et du point de vue éthique, on ne peut pas vendre une partie de son corps. Ça, c'est un fait. Donc, le sang ne se vend pas. Par contre, dans certains hôpitaux, on peut taxer l'acte de transfusion. Ça veut dire tout ce que les prestataires réalisent autour d'une transfusion peut être taxé. Mais la poche de sang elle-même, telle que décrit notre politique, telle que reconnue universellement à travers le monde, ne devrait pas et ne se vend pas. C'est plutôt certaines analyses qui ont été réalisées autour de la poche de sang qui peuvent faire en sorte que cette poche de sang ait un coût. Mais en réalité, on ne devrait pas vendre du sang et c'est de là où nous allons. Les jours où nous allons atteindre notre stratégie qui devrait faire en sorte que toutes les banques de sang de la République soient dotées de tous les matériels nécessaires, du personnel formé et toutes les ressources le sang ne devrait pas se vendre en tant que sang. Mais les actes qui sont posés peuvent être des actes qui nécessitent un paiement quelconque. Ça, c'est de la politique de la tarification de la structure sanitaire en face de laquelle on se présente. Mais nous, nous déconseillons et nous décourageons toute vente quelconque d'une unité de sang parce que c'est une partie de son corps et qu'on ne peut pas vendre. Voilà, je pense que nos amis sont satisfaits, mais il faut toujours continuer à marteler là-dessus et à déconseiller aux prestataires de pouvoir exiger un coût lié à la poche. Il faut expliquer aux malades ou à la famille du malade que ce que l'on demande comme prix, c'est par rapport aux analyses réalisées, si elles ont été faites, et c'est par rapport à l'acte de la transfusion, si celle-ci a été posée.
Bien, Jérémy est revenu sur la même préoccupation aussi. Et puis Samuel Béa nous appelle de Kinshasa. Bonjour Samuel.
Bonjour Monsieur Jody, Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, merci pour la thématique du jour. Je voulais aussi accompagner l'invité, c'est le docteur, dans le sens que il n'est pas interdit. Nous savons que on classe les donneurs en trois catégories. Nous avons les donneurs bénévoles, c'est aussi une catégorie à côté. Nous avons aussi des donneurs familiaux, ainsi que les donneurs rémunérés. Donc c'est connu. Si aujourd'hui on trouve les gens aussi qui se présentent dans des structures sanitaires pour vendre les, c'est connu. À défaut de quoi, on peut aussi faire recours à la famille, on peut faire aussi recours aux donneurs privés. Ce n'est pas interdit qu'il y a seulement la catégorie des donneurs bénévoles. Ma question est celle de savoir. Je ne sais pas. Nous voyons dans, il y a d'autres responsables des bibliothèques, des maisons de bibliothèques ou maisons de livres qui exigent aux étudiants ainsi que même d'autres chercheurs qui passent là pour consulter de donner le sang. Mais nous voyons que cela a exposé beaucoup de gens parce que là-bas, on n'a pas tenu compte de toutes les conditions possibles pour prélever le sang. Il y a les gens autres. Nous avons des témoignages des gens qui ont développé des maladies comme ça. C'est sur les hépatites. Ici, hépatite B et consort, à l'aide des prélèvements aussi qui se font comme ça. Est-ce que la structure là est aussi informée? La structure est informée de ce qui se passe dans les maisons où soit on peut aussi être en mesure de dénoncer. Il y a un moyen parce que nous sommes en mesure de le faire, parce que nous avons les maisons qui exigent les gens. Et aussi ces gens-là récoltent le sang. Mais je me demande, est-ce qu'après avoir récolté, ils amènent ça aux structures qui sont connues ou soit ils font quoi avec le sang des gens-là? Donc ils ont des bibliothèques.
Samuel, pour y accéder. Là c'est au niveau des universités ou en dehors des sites universitaires?
Non, en dehors des sites universitaires. Aux universités non plus. En dehors des sites universitaires.
Donc pour accéder à une bibliothèque, on vous demande d'abord de donner le sang.
Ah oui, de donner le sang pour accéder, non. C'est que tu pour accéder, de le lire, non, il faut donner le sang. Maintenant, vous devrez un peu savoir si le docteur est aussi au courant qu'il y a des structures autres qui font ça. Est-ce qu'après avoir récolté ce sang-là, ils viennent avec ça dans l'air? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas comprendre. C'est ce que je voulais aussi dénoncer.
Merci. D'accord. Merci. André, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, André?
Bon, merci. Comme toujours, on l'a toujours dit, la Radio Okapi, c'est une radio qui nous permet efficacement. Et hormis beaucoup de choses que je peux dire. Sinon, personnellement, je ne suis pas vraiment du domaine, mais attaque congolaise ou élite congolaise, je ne peux que quand même mettre ou y mettre mon avis, parce que donner son sens ou donner le sens, c'est sauver des vies. Alors, mais il se fait que il y a des gens qui sont en train d'aider, mais malheureusement, il se fait que ils ne sont pas par moment pris en charge. Quelqu'un peut donner le sang. Mais au lieu quand même de prendre ne fût-ce que sa prise en charge à manger pour qu'il récupère son énergie. Et de ce côté-là, j'ai assisté à un phénomène comme celui-là. Il y a quelqu'un qui regrettait comme ça de la prise en charge. Ça, c'est d'un côté. Et il y a aussi, malheureusement, aussi partant de l'intervention de celui qui vient précédemment intervenir, qui, pour accéder à une bibliothèque, il faut donner le sang. Donc, ça, c'est déjà un signal fort et très malheureux, et que l'invité pourra peut-être nous éclaircir, parce que c'est inacceptable, quelque chose du genre. Où est-ce qu'ils vont aller avec les sangs? Où est-ce que Vous voyez autant de questions que nous pouvons nous poser. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Sinon, pour finir, je vais dire ceci. En tout cas, les médecins ont comme credo ou tout ce que nous connaissons, c'est sauver des vies. Mais vous trouverez qu'il y a aussi de ce côté-là, nous perdons beaucoup de Congolais, beaucoup de êtres chers par une négligence de la part du corps médical. Alors, je demanderai aussi à l'invité de pouvoir... je sais qu'ils sont organisés ou la structure est bien organisée, mais quand même, les contrôles, parce que ces pays souffrent beaucoup plus du contrôle. Est-ce que ça se passe normalement comme défini dans les objectifs de la structure ou l'objectif de la structure? Donc, c'est un peu ça, parce que je me mets à la place de ceux-là. Hein, je me dis, par exemple, c'est un membre de ma famille qui a besoin de la vie, qui a besoin du sang, et je vais élargir ce sentiment que j'ai. Ainsi de suite. Voilà un peu ce que je voulais intervenir là à Radio Okapi.
Bien, merci d'avoir appelé André de Kinshasa. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour. Bien, on va accueillir Héritier tout à l'heure. Nous parlons de l'importance du don bénévole de sang avec Dr Pacifique Missingi, le directeur du Centre national des transfusions sanguines. On va accueillir Héritier à partir de Bounia. Bonjour Héritier.
Bonjour, je dis. Bonjour, monsieur le docteur.
On vous écoute.
Bon, je voudrais poser la question à monsieur le docteur. Est-ce qu'il y a-t-il des groupes sanguins appropriés qui sont appelés à donner à être des fondateurs du sang? La deuxième question, est-ce que les donateurs du sang pourrait-il contracter après avoir donné son sang à quelqu'un.
Je finis avec ces questions. Le docteur aura de répondre. D'accord, merci. D'accord, merci Héritier. Depuis Bounia, je reviens à vous, docteur Pacifique. Revenons d'abord à Samuel Béa de Kinshasa qui nous dit qu'il y a trois catégories des donneurs, les donneurs familiaux, rémunérés et bénévoles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste et puis merci à celui qui a posé la question. Il faut ici dire que le constat fait sur le terrain montre qu'il y a d'autres donneurs de sang. Et c'est ce qui amène à cette catégorisation. Mais la norme veut que nous n'ayons que des donneurs bénévoles. Et la stratégie que nous avons développée, fort de ce constat, c'est de faire en sorte que nous convertissions tous les donneurs qui se présentent dans les hôpitaux comme des donneurs familiaux, qu'ils soient sensibilisés et devenir des donneurs bénévoles réguliers. Mais le pays n'a pas une politique qui catégorise les donneurs en ce type de...
Mais d'où vient cette catégorisation alors?
Ça c'est un constat de terrain, c'est une mauvaise pratique et qui n'est pas...
Qui s'est imposée...
Justement, qui s'est imposée faute de ces vides-là. Mais nous, fort de cela, c'est ce que j'avais dit, nous devons transformer ces donneurs familiaux en des donneurs bénévoles, réguliers, et de les suivre. Ça, c'est un fait.
Bien, une autre préoccupation de Samuel, il est allé quelque part dans une bibliothèque, on exige avant de consulter les livres, on doit vous prélever des sangs. Est-ce que vous êtes au courant de cela?
Ça, c'est une pratique qu'il faut bannir et réprimander même. Les dons bénévoles de sang, ils restent bénévoles et sans contrepartie. Moi, je pense... Nous en sommes informés maintenant, lors de cette émission, et nous allons mettre en place notre équipe, en collaboration avec les instances de la ville, ici je vois l'inspection provinciale, pour identifier exactement quelle est la structure qui a conditionné un don de sang pour accéder à ces services. Ici je vois cette bibliothèque. Il faut que notre ami nous aide à l'identifier de manière à ce que nous allions vers cette structure et poser les questions nécessaires.
Voilà, Samuel Béa peut nous écrire à service@radiookapi.net pour nous dire quelle est cette bibliothèque, s'il en connaît. Bon, voilà, le docteur a promis de veiller à cela. Donc, ces structures n'ont pas les droits.
Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité. Alors, c'est ici où je vais rebondir sur d'autres sous-questions qui ont été posées, notamment lorsqu'il y a des campagnes, où est-ce qu'on amène les produits sanguins et qu'est-ce qu'on en fait. Ici, il faut dire que Kinshasa, par exemple, c'est une ville qui a besoin de plus ou moins 100 000 unités de sang par année. Et que le Centre national des transfusions sanguines a pu développer une stratégie de pouvoir former certaines structures, les capacités en antimatériel et en tests nécessaires pour arriver à faire des campagnes de collecte mobiles et de ramener les unités de sang dans les conditions exigées, rigoureuses, notamment dans le respect de la chaîne de froid jusqu'au niveau des banques de sang. Donc ce sont des structures hospitalières accréditées par le Centre national pour pouvoir faire ces campagnes de collecte que nous connaissons très bien. Et ces structures, par ailleurs, participent avec le Centre national à un programme de contrôle de qualité périodique pour qu'on se rassure, d'une part, des respects des normes en ce qui concerne la chaîne de froid et d'autre part, des respects des normes en ce qui concerne la qualification de ces produits sanguins collectés. Donc, c'est des structures qui ont des personnels formés par le Centre national dans le prélèvement, dans le stockage, dans le transport et dans la qualification. Mais à cela, il faut continuer à réaliser, au-delà des contrôles de qualité externes avec ces structures, des supervisions techniques pour que l'on se rassure si effectivement ces structures le font dans le respect des règles exigées.
Bien, avant de répondre à la question d'héritier de Bounia, on va accueillir Orsène de Lubumbashi. Bonjour Orsène, quelle est votre préoccupation?
Bon, bonjour, c'est aujourd'hui, bonjour, pour les auditeurs de Bardo.
On vous écoute Orsène.
Ah, ça va, merci beaucoup, mais je vous dis pour la parole. Je n'ai pas beaucoup de questions. Je me rends demander aux docteurs de nous expliquer. Il y a d'autres personnes qu'on suture les sangs et la personne ne manifeste aucun malaise. Mais il y a d'autres personnes qu'on suture les sangs comme ça, la personne manifeste des fatigues, il y a des vestiges. Je ne sais pas, c'est là et dit à quoi les docteurs payent. Nous expliquer. Et la deuxième question était celle de savoir, les sangs peuvent être conservés pour combien de temps dans une poche? Ça peut être conservé même pour un mois, ou bien ça a une durée déterminée. Et je demande au docteur si lui-même est un donateur du sang, ou bien il motive seulement les gens à adhérer à cette structure-là et que lui-même ne s'intéresse pas. J'ai dit et je vous remercie.
Merci Orsène. Docteur Pacifique.
Ok. Merci beaucoup, cher compatriote de Lubumbashi. Mais ici, je voudrais profiter pour répondre au collègue de Bounia. Parce
de Bounia, voilà, qui demande quel est le groupe sanguin habilité à donner les sang.
Ici, tout de suite, je vais dire au collègue de Bounia, au compatriote de Bounia, que tout groupe sanguin est habilité à faire son don de sang. Donc, le don de sang n'est pas limité par rapport à un sanguin. Type de groupe sanguin.
Souvent, on entend O positif, c'est ça le groupe universel qui donne à tout le monde.
Bon, ça c'est des questions très techniques au niveau des l'immunologie pour lesquelles nous ne serons pas abordés ici cette question, mais il y a la nécessité de comprendre que toute personne avec son groupe sanguin, quoi qu'il en soit, peut donner son sang, bien sûr, après les screenings qu'on doit réaliser. Donc c'est pas lié au groupe sanguin. Alors, il a également évoqué qu'il y a certaines maladies qu'on peut contracter après avoir fait son don de sang. Nous pensons que ça ne devrait pas exister parce que le personnel qui est en face d'un donneur est formé quant à toutes les mesures qu'il faut observer en termes d'asepsie pour que le donneur ne soit pas exposé à une contamination quelconque.
Il a développé des hépatites, par exemple.
Ça, c'est quasiment exclu parce que sauf s'il y a une documentation à cela. Nous avons aussi notre sous-système qu'on appelle de l'hémovigilance chez les donneurs. Donc nous mettons en place toutes les mesures possibles pour sécuriser celui qui fait son don de sang, y compris les mesures d'hygiène, les mesures d'asepsie, et les mesures de sécurité pour celui qui reçoit ses produits sanguins. Donc ça ne devait pas se faire comme ça, ça ne devait pas être une hépatite contractée au décours d'un acte de don bénévole de sang. Je ne pense pas, parce que les mesures sont prises de manière à ce que la personne qui fait son don soit sécurisée et totalement sécurisée.
Mais si cela arrivait, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, peut-être si cela est arrivé et que l'on constate que c'est un donneur qui était négatif par rapport à certains marqueurs, les deviennent, il existe des programmes qui puissent prendre en charge ces cas de figures.
Bien, Orsène de Lubumbashi veut savoir, est-ce qu'on peut avoir des malaises après le prélèvement? Il y a des malaises, des vertiges ou autre chose? Est-ce que chaque donneur réagit? Bon, je suppose que les réactions sont différentes.
Tout à fait, tout à fait. Ici, je dois souligner qu'effectivement, il peut y avoir des réactions normales, transitoires, contrôlables du reste. Parce que lorsque le candidat fait ce don de sang devant un prestataire formé, le prestataire sait que chaque donneur peut réagir de sa façon par rapport à un prélèvement quelconque.
Généralement, vous prélevez quelle quantité de sang?
Nous prélevons généralement en fonction aussi de certains paramètres, notamment le poids du donneur. Nous prélevons les minimums, c'est 250 millilitres de sang et le maximum c'est 450 millilitres. Donc c'est moins d'un dixième ou d'un vingtième du volume sanguin d'un sujet et qui ne devrait pas impacter négativement sur l'équilibre homéostasique ou l'équilibre physiologique du donneur. Tout est déjà calculé.
Parce que certains disent non, le sang va diminuer quand vous donnez le sang, vous allez en perdre, vous aurez des vertiges, etc. et des problèmes.
Non, loin de là, parce que toutes les fois qu'il y a prélèvement du sang, le corps humain réagit de manière à reconstituer les petits volumes prélevés dans les heures qui suivent. Et cela est surveillé attentivement par les collègues qui sont en charge des surveillances de l'encadrement du donneur après son don lors de la petite collation que l'on attribue au donneur en guise de remerciement. Et pendant cette période-là, méfiez-vous.
Qu'est-ce qu'on donne le lait? Ça permet de reconstituer rapidement le sang, la tomate, etc.
Non, c'est pas lié à la reconstitution du sang, c'est juste un geste.
Un geste bouillé.
Un geste symbolique de remerciement que nous donnons. Pendant qu'il est en train de prendre sa bouteille d'eau, il y a d'autres qui prennent une bouteille d'eau, il y a d'autres qui prennent une bouteille de
boisson sucrée.
Oui. Pendant ce temps, non seulement nous faisons l'entretien avec le donneur pour le persuader de continuer à le faire et de le fidéliser, et nous l'observons s'il peut faire une réaction transitoire de type vertige, de type malaise, mais c'est contrôlable. Nous avons des capacités de pouvoir contrôler toute réaction post-transfusion, post-don qui puisse arriver. Mais c'est des faibles proportions qui soient déjà documentées.
Orsène veut savoir quelle est la validité du sang, d'une poche de sang après prélèvement.
Oui. C'était une question supposée, mais ici, il faut dire que ça dépend du type de produit sanguin en présence. Par exemple, si nous sommes en présence de plaquettes sanguines qu'on produit à partir d'une poche de sang, ce type de produit sanguin a une durée de vie maximale de 4 jours seulement, les plaquettes. Mais une poche de sang total a une validité conseillée de 21 jours seulement. Et dans le contexte actuel où c'est des urgences, où les stocks en sang est quasi limité, il est impensable que l'on arrive à 21 jours après prélèvement sans que l'on ait transfusé le malade. Donc c'est des cas qui arrivent.
Donc au niveau du centre, il n'y a pas de
des péremptions de produits sanguins ou de surstockage.
Voilà.
Non. Le besoin, il est pressant et tous les jours, nous sommes amenés à pouvoir répondre rapidement. Nous ne pouvons pas accepter et comprendre qu'il y ait un surstockage de produits sanguins devant les besoins qui deviennent de plus en plus pressants et croissants.
Il y a beaucoup de besoins.
Naturellement, il y a beaucoup de besoins.
Serge, il vous a posé une question, on va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accueillir Serge Kingi depuis la ville de Kindu. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à notre invité du jour.
Nous parlons de l'importance du don bénévole des sang. Quelle est votre préoccupation?
Voilà, j'aurais 5 petites questions, mais avant de pouvoir procéder, je passe d'abord à quelques historiques dont j'ai passé au village au fin fond de la province, où j'ai retrouvé dans l'air de santé de cette partie où j'ai vivé, au niveau de Sabia Zola. Alors, s'il y avait l'enfant qui avait au moins la nécessité de 10 sang, alors un papa est venu comme ça, on l'a fait retirer 10 sang plus rapidement, sans tenir compte des conditions, quoi que ce soit, voilà. Alors, ma question est de savoir, quelles sont les dispositions? Est-ce que l'enfant là qu'on a transmis les sang là, est-ce que si le sang de ce papa-là avait de la malaria, ou soit avait du VIH, ça ne serait pas des conséquences pour cet enfant? Et est-ce que quelqu'un qui souffrait au moins de la malaria peut-il être l'agent causal à la transmission sanguine par rapport au cyclique, par rapport à celui qui l'a transmis son sang? Voilà, je passe maintenant à 5 petits questionnaires. Comment savoir si le sang... voilà, je voulais dire, est-ce que le sang peut se régénérer une fois de plus? Et comment ça peut se régénérer après avoir donné son sang? Alors, quel type de sang qui est le plus rare lorsque vous voulez faire les bons bénévoles du sang? Et au finish, pourquoi le mineur ne peut pas donner aussi son sang? Et avant de terminer, qui peut donner son sang, entre autres, quand nous vivons? Puisque nous savons qu'il y a les gens des SS, il y a des gens, voilà. Pourquoi cette différence? Quelles sont les dispositions que notre invité peut nous éclairer par rapport à cette situation? Est-ce que nous sommes ça bon pour la santé?
Bien, merci Serge Kindou depuis la ville de Kindou. Docteur, je reviens à vous. Arsène vous a posé la question de savoir si vous êtes vous-même donneur bénévole de sang.
Oui, je suis bénévole de sang. Mais il faut dire qu'il arrive des moments où je suis temporairement exclu par le fait que je peux être sous cure de la malaria, je peux être sous antibiothérapie. Mais sinon, nous-mêmes, nous sommes bénévoles de sang. Nous sommes d'ailleurs d'un groupe qui est le plus répandu.
Bien, voilà. Le O positif, vous voulez dire.
Oui.
D'accord. Et Serge, je veux savoir, il a donné un cas d'une petite fille qui avait une urgence, il y avait besoin de sang. On a juste un papa, un donneur à donner de son sang. Sans traiter, on a directement perfusé.
Ça, c'est un constat très malheureux. Mais nous exigeons que, avant la transfusion, que tout don de sang soit testé, soit qualifié, ne fût-ce que testé à au minimum 4 maladies. Testé par rapport au VIH, par rapport aux hépatites B et C et par rapport au syphilis. Mais il arrive des régions où nous devions augmenter d'autres tests, notamment les régions où la maladie du sommeil bat le record et ajouter un autre marqueur, un autre test. Mais on ne peut pas accepter que les transfusions dites à chaud continue à être réalisé à l'échelle du pays. Ça, ce n'est pas
dangereux.
C'est
hein?
Très dangereux parce que ça expose au risque de contamination du receveur qui a besoin d'être sauvé en termes de sa vie en danger, mais vouloir le contaminer aussi. Ça, c'est à déconseiller. Toute poche de sang avant transfusion doit être testée conformément à la politique nationale.
Malgré qu'il y a urgence.
Ça, c'est l'éthique. Malgré l'urgence, nous devons tester ce qu'il faut. S'il y a urgence, naturellement, les confrères savent quelles sont les mesures à prendre pour arriver à stabiliser les sujets avant la transfusion et avant que la poche ne soit testée conformément aux normes nationales.
Bien, il revient sur la régénération. Est-ce que le sang se régénère automatiquement après le prélèvement? Je crois que vous avez répondu à cette question tout à l'heure.
Oui.
C'est juste une petite quantité et puis qui va...
Et même par ailleurs, il faut que peut-être le compatriote qui a posé la question, s'il était dans les domaines, il devra savoir que du point de vue du fonctionnement global de l'être humain, il y a un cycle de régénération des globules rouges qui se développe et qui reconstitue les jeunes globules rouges et jusqu'à ce que cela soit le volume soit atteint. Il y a un mécanisme interne du corps humain qui régénère beaucoup de cellules, y compris les cellules sanguines.
Bien, et puis une autre préoccupation, pourquoi les mineurs ne peuvent pas donner le sang?
Bon, d'abord les mineurs eux-mêmes ont besoin du sang et donc ils ne peuvent pas à cela en donner. Et d'autre part, l'acte de bénévole de sang, c'est un acte responsable. Et les mineurs ne l'est pas. Donc il y a beaucoup de critères. Si je vois les besoins du sujet lui-même qui est mineur et la responsabilité qu'il devra avoir, mais aussi à cela il faut associer d'autres éléments, notamment le poids qu'il faut prélever et d'autres éléments qu'il faut identifier chez les donneurs. Donc les mineurs, pour plusieurs raisons, il est exclu. Il y a des raisons médicales, des raisons sociologiques et des raisons anthropologiques.
Bien, je pense qu'on y a, on va terminer par là, mais avant de terminer, docteur, il y a parfois des gens qui se disent on veut pas donner le sang parce que si la personne était sorcière, vous donnez le sang à l'autre, la sorcellerie va traverser et entrer dans le corps de l'autre. C'est des choses que les gens racontent souvent.
Oui, malheureusement,
des raisons spirituelles, etc.
Oui, malheureusement, c'est des pratiques qu'on a constatées en termes d'information, mais ça il faut tout de suite dire que le comportement d'un donneur n'est pas transmissible à un receveur. Ça, c'est
exclu. Certains disent même s'il est voleur. Donc, tu deviens voleur aussi.
Non, pas tout à fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Ici, nous sommes certainement sur les aspects médicaux et juste nous donnons ces produits sanguins pour, d'une part, stopper l'urgence et, d'autre part, bénéficier au receveur d'autres soins appropriés pour stabiliser sa situation. On ne transmet pas de comportement d'un sujet à un autre à travers la transfusion.
Mais il y a certaines religions qui refusent la transfusion, par exemple. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Bon, à ce moment-là, d'abord, il faut savoir que la transfusion elle-même en tant qu'acte, c'est un acte ultime. Avant d'arriver à la transfusion, nous passons par d'autres stratégies pour pouvoir stabiliser le malade. Mais nous persuadons, nous faisons tout pour persuader au sujet ou bien à la famille du malade qu'au stade actuel, la transfusion s'impose en face de certains signes. Mais si nous arrivons à un stade où la famille refuse, le malade refuse, nous devenons impuissants. Et il faut régler ces questions pareilles, notamment dans la loi, notamment dans des directives nationales, pour faire en sorte que le médecin dévasse sa conscience, il doit sauver la vie et passer outre certaines réactions de la famille ou du malade lorsque la vie est en danger. Ça, il faut régler ces questions par rapport à une législation qu'il faut asseoir au niveau du pays.
Bien, la célébration de la journée mondiale du don du sang, cette célébration aura lieu le 14 juin prochain. C'est quoi le thème pour cette année, docteur?
Le 14 juin de chaque année, effectivement, c'est une journée dédiée aux donneurs bénévoles de sang. Le thème principal qui a été retenu au niveau global, c'est donner son sang comme un acte de solidarité. Et on demande à ce que les gens rejoignent les mouvements pour sauver des vies. Donc le thème, c'est donner du sang, acte de solidarité, rejoignez les mouvements et sauver des vies.
Pour ceux qui sont intéressés, où aller pour donner le sang?
Il faut d'abord... pour ceux qui sont à Kinshasa, venir faire leur don de sang au niveau du Centre national des transfusions sanguines, basé à Bandalungwa, mais aussi aller faire son don de sang en face des sites identifiés par nos équipes de campagne mobile, bien identifiés, et cela à Kinshasa. Au niveau du pays, au niveau des provinces, il faut aller au niveau des centres professionnels des transfusions sanguines et des structures hospitalières accréditées par nos centres provinciaux pour le faire, des structures techniquement capable de le réaliser.
Bien, docteur Pacifique Missingi, directeur du Centre national des transfusions sanguines, merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapuko a assuré la coordination et la réalisation. Polydor Bansunga, la mise en onde au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir et se brancher sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.